Bonjour à tous. Comme un mardi, 5 ans après les attentats de Toulouse qui ont marqué le début d'une longue série, la réponse des pouvoirs publics est-elle adaptée à la menace? Quels sont les piliers juridiques et policiers de l'édifice? Ont-ils fait leurs preuves face aux défis djihadistes? Historien et juriste, François Saint-Bonnet publie À l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État, c'est chez Gallimard. Il sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, c'est une première, c'est une femme déjà, de caractère aussi, spécialiste du 19e. Enfin, elle vient de prendre la tête du musée d'Orsay. Son parcours, ses ambitions pour cette institution bien plus que parisienne, Laurence Descartes est notre invitée tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Après la direction du musée de l'Orangerie dans le jardin des Tuileries à Paris, vous avez donc pris la semaine dernière la présidence du musée d'Orsay. Laurence Descartes, bonjour.
Bonjour.
Troisième femme à la tête d'une telle structure après Sophie Macario au musée Guimet et Sylvie Hubach nommée en janvier à la tête de la réunion des musées nationaux, Grand Palais. Ça vous embête qu'on souligne le fait que vous soyez une femme?
Vous avez oublié Catherine Pégard à Versailles.
Ça fait quatre?
Ça fait quatre, oui, oui. Mais écoutez, non, je crois que c'est une... En tout cas, c'est une... Je suis très touché, évidemment, de la confiance que m'ont témoigné le président de la République et la ministre de culture en me confiant ce beau poste. Je crois que c'est très important que les femmes dans les métiers de la culture se portent candidates à ces postes, se battent pour les avoir, parce que c'est toujours une compétition et il faut voilà, et c'est jamais simple, mais je crois que c'est très important. Les métiers de la culture sont très féminisés et je parle par exemple pour le milieu des musées, vous avez beaucoup de conservatrices, je crois qu'il y a plus de conservatrices que de conservateurs.
Et féminisées jusqu'à un certain niveau.
Féminisées jusqu'à un certain niveau et il faut absolument briser ce plafond de verre plus souvent et de façon plus marquée. J'espère que dans les mois et les années qui viennent, on verra de plus en plus de femmes à la tête de ces institutions, oui, très sincèrement.
Justement, ce plafond de verre dans le monde des musées, vous l'avez dépassé aujourd'hui, après vous y être heurté?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que j'ai un parcours assez rectiligne de ce point de vue-là, en termes de carrière. Donc non, j'ai plutôt été encouragé dans mes ambitions. J'ai su très tôt que j'aurais un parcours, je pense, qui n'était pas que fait du scientifique pur et dur, et je ne me suis jamais vu comme un conservateur enfermé dans sa tour d'ivoire scientifique, mais comme quelqu'un qui se mêlait de la vie du musée en général, qui se mêlait de dossiers transversaux, comme on dit dans le jargon. Et cette vision de métier, je le dois à Henri Loirette, avec qui j'ai appris mon métier précisément au musée d'Orsay, puisque j'ai été conservateur 13 ans dans cette maison. Et voilà, c'est une vision complète, globale du métier, qui porte attention notamment aux questions des publics, qui va être un des très gros dossiers que je vais porter certainement en tant que présidente du musée d'Orsay et de l'Angerie. Et puis à la vie globale du musée, je crois que un musée qui fonctionne bien, c'est un musée où les scientifiques se mêlent justement de la vie quotidienne de l'établissement et pas simplement des questions scientifiques à proprement parler.
Vous avez dit conservateur et pas conservatrice. Pourquoi? Oui. Il ne faut pas commencer par féminiser les mots
pour
féminiser
les esprits. Non, il faut les féminiser. Bien sûr, il faut les féminiser. C'est pas voilà. Des vieilles habitudes qui traînent, mais on peut les féminiser. Mais il y a des femmes qui ne souhaitent pas les féminiser non plus.
Mais vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous allez changer
les
choses?
Oui, moi j'ai féminisé. J'ai tout féminisé parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà.
Bon, alors voilà, hein, ça a été entendu. Il va falloir changer ça aussi.
Conservatrice et présidente. Voilà.
Il va falloir changer ça aussi sur le site du musée d'Orsay désormais. Merci. Laurence Descartes, donc présidente, nouvelle présidente du musée d'Orsay. On entend peu les présidents de grandes institutions parler. Vous, c'est votre première intervention depuis votre nomination.
Oui, il y a quelques jours. Hein, c'est tout frais. C'est tout frais. Mais je pense que c'est bien de s'exprimer de temps en temps, d'avoir quelques rendez-vous avec les médias. Nous devons rendre aussi compte publiquement de notre action. C'est important, de notre vision de l'établissement, de ce que nous voulons y faire et de comment nous le faisons aussi, comment nous travaillons. Ça, je me paraît quand même un minimum.
Le faire pédagogique aussi.
Le faire pédagogique, mmh. Absolument. Nous sommes un service public aussi, nous sommes un opérateur de l'État et nous devons de rendre compte au public de ce que nous faisons.
Alors on va parler d'Orsay, encore un mot de vous. On vous dit rigoureuse, parfois rugueuse, une femme de caractère, déterminée en somme. Ce n'est qu'une esquisse, c'est ce qu'il faut en adoucir le trait.
J'espère. Écoutez, on se reconnaît jamais dans ce qu'on vous dit sur vous et sur ce qu'on écrit sur vous. Je crois que je suis quelqu'un de passionné, qui aime profondément mon métier, très attaché au travail d'équipe. Je l'ai, je crois, prouvé tout au long de ma carrière. Je suis quelqu'un qui croit à l'intelligence collective et c'est sans doute ce qui m'avait porté à la direction de l'Orangerie et à la présidence d'Orsay, parce que je connais bien les équipes et je sais les talents et je sais les compétences qui y sont. Et voilà, alors l'autorité, bah, il en faut un tout petit peu. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est souvent reproché aux femmes lorsqu'elles accèdent au pouvoir. C'est-à-dire, évidemment, une femme qui sait exercer le pouvoir est forcément autoritaire, donc voilà, sans commentaire.
En 94, vous l'évoquiez, un premier poste au musée d'Orsay à votre sortie de l'École nationale du patrimoine. Oui. Vous y resterez plus de 10 ans. C'est un retour à la maison, en fait, une maison que vous connaissez bien.
Oui, absolument. Ben, c'est une maison où je me suis construite professionnellement, donc j'ai eu la chance effectivement d'apprendre mon métier au moment où Henri Loiret prenait les rênes d'Orsay, ce qui n'était pas encore un établissement public à l'époque. Et tout de suite plongé dans le grand bain, des grands projets d'exposition, de la vie d'un musée extrêmement populaire qui accueillait déjà beaucoup de public et qui se confrontait à une évolution, un besoin d'évolution permanente. Et voilà, et donc j'ai vécu des années très très heureuses à Orsay. Et puis voilà, j'y suis resté quand même 13 ans, ce qui est long. Et puis à un moment il faut bouger, c'est très important de bouger dans une carrière. Je crois beaucoup à la mobilité, à la multiplicité des expériences, et j'ai vécu une expérience extrêmement riche en quittant le musée d'Orsay pour la direction scientifique de l'agence France Muséum, qui développe toujours d'ailleurs le projet du Louvre Abu Dhabi, qui est l'opérateur français qui développe le projet. Donc quelque chose d'extraordinairement différent et en même temps similaire, c'est-à-dire une façon de mettre au service d'un projet international et diplomatique, de diplomatie culturelle, dans une région très particulière du monde, le Golfe, notre savoir-faire en matière de musée, d'expertise scientifique, de constitution de collections, de formation des personnels. Donc un gigantesque projet que j'ai rejoint au tout début, à un moment où il était extrêmement attaqué et critiqué dans le monde même des musées, où c'était même une espèce de dispute de famille extrêmement, extrêmement forte. Et travailler dans cette relative adversité, tenir un projet dans ces conditions-là, je pense que c'était difficile, mais en même temps j'ai énormément appris à ce moment-là.
Vous y croyez à ce projet, parce que bon, ça fait déjà au moins 4 ans que le Louvre Abu Dhabi aurait dû ouvrir.
Non, ne commencez pas à dénigrer ce beau projet, il faut en être fier.
Je constate juste un petit retard au démarrage.
C'est ce qu'on appelle un grand projet. Il nous est arrivé en France, sur le territoire national, de connaître quelques retards sur des grands projets dont nous avions la totale maîtrise. Donc, dans un magnifique bâtiment aujourd'hui de Jean Nouvel, qui va ouvrir dans quelques mois. Projet très, très ambitieux, qui mobilise, vous le savez, pas seulement le Louvre, mais l'ensemble des grands établissements nationaux, par l'expertise, par la rotation de prêts français, donc des collections françaises pendant 10 ans, l'organisation d'expos, et l'établissement public d'Orsay et de l'Orangerie seront un partenaire très important. Les deux musées seront un partenaire très important de ce grand projet.
Projet de musée universel.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Bah c'est un terme dont on peut discuter, parce que dans le monde postcolonial, évidemment, c'est une question qui peut faire débat. Mais je crois qu'il faut revenir à l'essence du mot universel et à ce qu'a été la création du Louvre, notamment au XVIIIe siècle, parce que c'est un projet qui s'ancre beaucoup dans cette réflexion globale, avec l'idée que c'est un musée qui accueille, j'allais dire, toutes les expressions artistiques de toutes les civilisations, de l'archéologie jusqu'à l'art contemporain, avec une volonté de mise en dialogue, en fait, de ces civilisations et de ces expressions artistiques. Donc ça va être un parcours muséographique extrêmement original, très décloisonné, comme on l'a jamais vu, à mon avis, à cette échelle, qui va ménager de très belles rencontres. Pour la première fois, on verra ce qu'il se passe au moment, par exemple, de la Renaissance en Europe, ce qui se passe aussi dans le monde musulman, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe sur le territoire américain aussi. C'est très intéressant, très très intéressant. Comme
quelques mots qui reviennent justement à propos de ce Louvre à Abu Dhabi, qui montre bien la mutation aussi aujourd'hui des musées et de ce paysage. Internationalisation, projet global, hybridation. Est-ce qu'on va retrouver tout ça dans le nouveau musée d'Orsay dont vous prenez aujourd'hui la présidence? Est-ce qu'on peut parler d'Orsay comme d'un musée universel déjà? Ou est-ce que ça reste vraiment un musée national?
C'est un musée qui a une qui est en charge en quelque sorte d'une tranche chronologique très particulière dans les musées nationaux, assez courte en fait, qui est située entre le Louvre et le centre Pompidou, et qui a été créée il y a 30 ans, vous le savez, puisqu'on vient de fêter les 30 ans d'Orsay, qui est née de l'idée que la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle étaient une période absolument capitale, en gros la naissance de la modernité, et qu'il s'est élaboré là, notamment à Paris et dans l'art français, un certain nombre de codes, ou plus exactement une mise à bas des codes de représentation absolument fondamentale pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Et donc ce moment, ce temps très particulier de la naissance de la modernité, qui regroupe dans les collections françaises un ensemble d'œuvres absolument exceptionnelles, notamment autour de l'impressionnisme, devait trouver son propre espace. Alors, la grande idée d'Orsay aussi au départ, c'était la pluridisciplinarité. Ça, c'est une question que je veux absolument retravailler avec l'équipe d'Orsay aujourd'hui, parce que c'est un peu comme le centre Pompidou, si vous voulez, 40 ans après son ouverture, on a au fond le même parallèle dans l'exercice, dans le bilan que nous pouvons faire de ces deux institutions. Qu'en est-il de cette ambition pluridisciplinaire, de cette ouverture à d'autres domaines intellectuels et artistiques, c'est-à-dire mettre en résonance par exemple la peinture, les arts décoratifs, la photo, avec ce qui se passe dans le domaine politique, social à l'époque, dans l'histoire des idées, dans la littérature. La littérature m'est très chère à titre personnel et je souhaite qu'elle revienne, qu'elle soit plus présente à Orsay parce qu'elle est une clé absolument fondamentale de compréhension de cette période qui s'est enrichie en plus dans le cas d'Orsay avec l'adjonction de l'orangerie, c'est-à-dire que maintenant nous avons un très beau siècle qui va en gros de 1848 jusque pratiquement à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on va jusqu'à Matisse et Picasso avec l'orangerie. Donc il nous appartient de renouveler en quelque sorte la vision culturelle d'Orsay et de l'orangerie dans une dynamique aussi qui reste à inventer entre les deux établissements et qui sera une des ambitions aussi que je porterai. Pour avoir été directrice de l'orangerie, je connais le potentiel de ce merveilleux établissement et je sais qu'il est une chance pour Orsay et qu'il n'est pas son annexe, mais qu'il est au contraire un complément très intéressant.
Alors à propos justement de potentiel, près de 3 millions de visiteurs pour le musée d'Orsay l'an passé, plus de 780 000 pour le musée de l'orangerie. Vous avez évoqué effectivement votre attachement à cette idée de décloisonner les genres, on va y revenir, et notamment entre art et littérature, petite fille et fille d'écrivain, sensibilité particulière que vous avez montré avec Attaquer le soleil, hommage au Marquis de Sade à Orsay, 2 ans plus tard à l'Orangerie, avec Apollinaire, le regard du poète. Mais je vous propose d'abord un retour aux sources, puisque ça fait effectivement 30 ans, un peu plus maintenant, 31, que le musée d'Orsay est sur pattes, sur ses pieds, inauguré en décembre 86 par François Mitterrand, c'était la reconversion d'une gare par 3 architectes trentenaires à l'époque, aménagée ensuite dans les années 80. Écoutons 3 voix, 4 voix qui ont même porté ce projet.
Pour resituer la gare et pour donner envie ensuite aux visiteurs d'aller vers le futur musée, il nous est apparu important de développer au-dessus de la Seine un grand parvis passant au-dessus de la voie sur berge, d'aménager la place Bellechasse à partir de laquelle nous proposons l'entrée dans le musée, et enfin d'aménager le long de la rue de Lille, sur un trottoir surélevé, un passage piéton le long des fenêtres transformées en galerie couverte au rez-de-chaussée.
Les travaux pour ce musée du 19e siècle commenceront à l'été 1980. On espère les voir s'achever dès 1983.
C'était un lieu vide, abandonné. Plutôt que de se lancer dans des constructions hasardeuses, je pense que l'idée était très heureuse d'utiliser cette gare comme on l'a fait. Ensuite, c'est M. Vicard d'Estaing qui a mis au point le projet, qui a fait les premiers financements, qui en a prévu, grosso modo, la période.
Maintenant, on peut voir que les musées, c'est un musée nouveau, parce qu'il n'y a pas de salles numérotées comme dans tous les musées du monde, mais il y a des espaces dans lesquels le public peut aller d'un lieu à l'autre, attiré pour les œuvres.
79, 89, 86, trois dates notamment. On a reconnu François Mitterrand qui évoquait ce musée, ce projet de trois présidents. Et puis sur la fin, l'architecte Gaë Aulenti qui est décédé en 2012, qui a réagencé, aménagé l'intérieur du musée dans les années 80, depuis donc réagencé Orsay. Aux yeux du grand public, Laurence Descartes, c'est le temple des impressionnistes et de leur héritier, bien sûr. Vous, vous vous posez maintenant en gardienne du temple, où il y a vraiment cette idée d'élargir cette vocation très 19e attachée à ce lieu et reflétée par son architecture, cette ancienne gare.
Bien sûr. Non, c'est, Orsay n'est pas seulement un conservatoire d'œuvres. C'est un musée c'est un musée vivant, et je salue l'action de Guy Cocheval, mon prédécesseur, qui a notamment par les travaux qu'il avait menés au niveau impressionniste, une reprise des espaces, et par sa politique d'exposition extrêmement marquante aussi, a fait vivre ce musée, lui a refait toucher une sensibilité contemporaine que je veux creuser. Je veux que ce musée résonne avec son époque, parce que je vois Orsay, l'orangerie, comme des portes d'entrée dans notre modernité, comme des portes d'entrée dans notre culture contemporaine, notamment notre culture visuelle contemporaine, qui naît en très grande partie à la fin du 19e siècle. Et je veux que nous explorions ces questions, sans dévoiler la programmation sur laquelle je travaillerai avec l'équipe scientifique dans les mois qui viennent. Je veux que nous intéressions à la question de la naissance du cinéma, à la naissance de la bande dessinée, tout autant que nous reprenions notre place comme grand musée de l'impressionnisme. Il y a des façons d'aujourd'hui aborder l'impressionnisme extrêmement nouvelles, originales, et vous verrez qu'on les montrera à Orsay, à l'Orangerie. Je veux que nous reprenions la globalité de cette époque et la globalité des expressions artistiques de cette époque. Que nous reprenions en main cette polyphonie d'Orsay, qui est quelque chose de tout à fait unique, parce que, d'un certain point de vue, il faut que nous tenions le pari de la correspondance baudelairienne, et de Baudelaire à Apollinaire. Il y a là un fil extrêmement important, qui est celui du dialogue des arts entre eux, de l'importance de la poésie, de la littérature, qui sont les substrats essentiels de cette période. À cette jeune équipe, puisque l'équipe a été rajeunie considérablement par Guy Cocheval, je veux transmettre en quelque sorte les moyens de réorchestrer cette polyphonie à Orsay, à l'Orangerie.
Et alors, est-ce que la modernité passe forcément par le contemporain? Comment garder un musée en vie? C'est la réponse qui va peut-être vous surprendre de cette figure déjà un peu tutélaire que vous avez évoquée tout à l'heure, Henri Loirette, ancien président d'Orsay, ancien président aussi du Louvre. Écoutez ce qu'il en disait.
Fondamentalement, je dirais, ensuite on peut discuter du choix de tel ou tel artiste. Le Louvre a toujours été la maison des artistes vivants. Ils s'en sont inspirés. Je crois qu'un musée qui meurt, mon prédécesseur disait, un musée qui meurt, c'est un musée qui n'enrichit pas ses collections. Moi, je pense qu'un musée qui meurt, c'est un musée qui n'est plus capable de susciter la création contemporaine. Voilà, et ça, je crois que c'est absolument fondamental. Et faire revenir les artistes contemporains au Louvre, les amener à regarder les œuvres, à créer à partir de cette richesse et du palais et des collections, est quelque chose de fondamental.
Laurence Descartes.
Moi, je souscris totalement.
Ah bon ?
Je souscris absolument totalement. Je veux réouvrir Orsay, l'Orangerie aux artistes contemporains pour susciter... Oui, on a besoin de leur regard, mais c'est pas simplement les artistes, je dirais. Ce sont des regards contemporains, c'est-à-dire qu'il faut réouvrir Orsay, l'Orangerie aux historiens, des sciences sociales, des idées, l'histoire des sciences est aussi quelque chose d'absolument passionnant. La question de science et art dans cette période est fondamentale, et elle a beaucoup de choses à nous dire sur des grandes questions de notre époque. Donc, si vous voulez, c'est pas simplement un dialogue plastique direct, c'est une vision globale des choses, avec des cartes blanches, des invités. Voilà, je veux que Orsay se réouvre effectivement au regard contemporain, bien sûr celui des créateurs, des plasticiens, mais pas seulement.
Samedi, deux anciens étudiants en histoire de l'art à l'université de St Andrews, Kate et William, en visite à Paris, sont passés par Orsay. Qu'est-ce qu'ils ont vu, les joyaux de la couronne? Sisley, Monet, Degas, Courbet, les collections permanentes?
Oui, absolument. On est allé dans la galerie impressionniste.
Vous avez un guide de choix quand même. Hein
oui, absolument. Non, mais moi je passais mon grand oral. C'était mon bizutage de présidente. Et on s'est attardé. Et honnêtement, on a passé plus de temps que je ne l'aurais pensé. Vous savez que le protocole de ces visites est absolument redoutable pour pour tout conservateur ou directeur de musée qui guide ses invités de marque. Et la visite était extrêmement détendue et on a eu le temps de regarder un certain nombre de tableaux importants avec un intérêt très certain du duc et de la duchesse de Cambridge pour cette période de l'impressionnisme et avec en ligne de mire une belle exposition à la Tate et au musée du Petit Palais. Je salue mon confrère Christophe Leribaud au passage, qui parlera à la rentrée de ces échanges en fait culturels franco-britanniques à la fin du 19e siècle. Donc il y a un certain nombre d'œuvres d'Orsay qui seront prêtées à cette exposition et on les a regardées particulièrement.
Mais ils n'ont pas vu encore ou ils n'ont pas pu voir les portraits de Cézanne, cette exposition qui va commencer à la mi-juin, donc logiquement elle n'est pas encore ouverte. Mais là, c'est l'exemple même, justement, elle va passer par la National Portrait Gallery de Londres, mais aussi par Washington. Ça, c'est l'exemple d'expositions qui sont montées aujourd'hui et que vous allez monter plus tard, qui vont être un exemple de partenariat entre des grandes institutions.
Absolument, ça c'est très important. La question des partenariats est fondamentale, alors que ce soit des partenariats nationaux, j'entends développer notre politique territoriale avec des grands partenariats avec nos confrères de région pour monter des expositions et parfois les faire rentrer, comme ça a été le cas pour Basile avec Montpellier, partenariat Montpellier, Paris, Washington. Je trouve ce genre de partenariat tout à fait exemplaire. Et puis partenariat évidemment avec les grands musées européens et américains avec lesquels nous partageons d'abord des collections communes qui se complètent, des scientifiques de haut niveau qui sont capables de porter de beaux projets. Et puis c'est aussi une économie, hein, pour parler franchement, vous le savez, la production de ces grandes expositions est chère en termes de transport, d'assurance, et c'est toujours beaucoup plus simple d'être à deux, à trois pour partager ses coûts et faire en sorte que ces expositions soient véritablement des événements scientifiques et aussi des événements, j'allais dire, tournés vers le public, le grand public, qui fassent connaître les artistes et les œuvres de cette période.
Mais alors comment faire justement quand on préside une institution comme Orsay pour doser sa politique d'acquisition, de vente, de partenariat, de collaboration, comment ne pas tomber dans une dimension trop commerciale, trop événementielle aussi?
C'est une question d'équilibre. Je pense que c'est aussi une question de priorité clairement définie. Et moi, je vais m'attacher dans les semaines qui viennent au sein d'Orsay de l'Orangerie à définir précisément ces priorités avec les équipes. On ne pourra pas tout faire en même temps. On ne pourra pas tout faire non plus tout court. Toutes nos envies ne seront pas réalisables dans le mandat de 5 ans qui m'a été confié. Mais je pense que si on arrive à avoir des objectifs clairs, on peut équilibrer les choses. Je crois que cet équilibre, il est nécessaire et il est d'ailleurs certainement une des missions, des premières missions de tout président d'établissement public, c'est-à-dire ménager l'ambition scientifique, le rapport au public. Là encore, c'est un dossier prioritaire pour Orsay et l'Orangerie qui doivent travailler cette question des publics de façon vraiment importante. L'équilibre économique dans la mesure du possible. Nous ne sommes pas là pour a priori gagner de l'argent, mais nous sommes là pour essayer d'en perdre le moins possible, c'est plutôt ça l'équation. Développer aussi des ressources propres dans ce domaine, et il y a eu un très gros effort mené par mon prédécesseur dans ce domaine, et je crois que le potentiel d'Orsay de l'Orangerie est important dans ce domaine, et ces ressources propres peuvent nous donner le poumon nécessaire, si vous voulez, l'air nécessaire pour mener certains projets de travaux, d'acquisitions. Donc ça, ce sont aussi des opérations internationales. C'est aussi le mécénat qui est un chantier très important. Et puis c'est aussi, et là encore, je salue l'œuvre de Guy Cocheval, c'est aussi savoir cultiver des relations avec des grands collectionneurs qui aboutissent avec bonheur, parfois, à des donations aussi exceptionnelles que la donation de Spencer et Marlene Hayes il y a quelques mois.
Ça fait quand même beaucoup de casquettes, on l'entend, hein, pour vous aujourd'hui, manager, gestionnaire, conseiller scientifique, conservatrice, les orientations artistiques à mener. Donc il faut trouver l'équilibre entre tout ça. On n'a pas quand même cité l'exposition qui vient d'ouvrir en ce moment au musée d'Orsay, Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky, qui a débuté la semaine dernière. ça aussi, ils ne l'ont pas vu, Kate et William ?
Non, ils ne l'ont pas vu.
Bon. Bon. Et pourtant, ça aurait mérité
pas
deux,
assez
non
de temps. Pas assez de temps. On s'est concentré sur les impressionnistes.
Bon. On s'est demandé comment garder le musée en vie. Parlons juste un peu quand même aussi de vos goûts. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions par le passé, notamment à Orsay, des pré-raphaélites aux réalistes américains, sans oublier Gustave Courbet. En 96, vous étiez la commissaire de plusieurs expositions à Orsay, et notamment de l'origine du monde autour d'un chef-d'œuvre de Courbet. Cette origine du monde qui a tant fait parler de lui, tant fait couler d'encre ou de peinture, qui a été peint en 1866, qui a été racheté ensuite par Jacques Lacan en 55, et qui entre enfin au musée dans les années 90 dans le cadre de l'exposition. Ça a été une bataille de le faire venir à Orsay.
Une bataille, non. C'est un des premiers dossiers que m'est confié Henri Loirette lorsque j'étais jeune conservatrice. C'était précisément de s'occuper de la dation, en fait, qui allait permettre l'entrée de l'origine du monde à Orsay. Et c'était évidemment un dossier totalement passionnant. Et voilà, donc je l'ai suivi de près, à la fois son premier accrochage dans les salles, avec de notre part une certaine curiosité sur la réaction des visiteurs. Et c'était assez drôle, il faudrait se replonger dans les archives de l'époque, mais c'est vrai qu'il y avait, une curiosité pour ce tableau tout à fait exceptionnel. Une curiosité généralement pas assumée d'ailleurs par les visiteurs dont on suivait le trajet dans la nef du musée et qui petit à petit se rapprochaient de la salle Courbet, mais sans avoir l'air vraiment de s'en approcher. C'était extrêmement drôle entre les groupes d'adolescents qui, bien entendu, plaisantaient devant le tableau et gens plus âgés qui étaient un peu gênés, mais enfin qui venaient quand même voir le tableau. C'était très drôle à observer. Et puis j'avais eu la chance de faire une petite, c'était les 10 ans d'Orsay en 96, et de faire une petite exposition dossier autour de l'origine du monde, où j'avais eu la chance de rassembler en fait deux autres chefs-d'œuvre de la collection Khalil Bey, Le Sommeil de Courbet, qui est aujourd'hui au Petit Palais, Les Deux Amis, le tableau baudelairien par excellence, et Le Bain turc d'Ingres. Et je dois dire que c'était un de mes premiers moments, enfin un souvenir d'accrochage incroyablement fort à Orsay, que d'avoir accroché ces trois monstres de tableaux ensemble dans un petit espace.
Vous avez également beaucoup collaboré avec des musées américains. On a parlé un peu de ces partenariats tout à l'heure avec une exposition à l'Orangerie qui était consacrée à la peinture américaine des années 30. Vous avez fait notamment entrer cette American Gothic de Grant Wood qui avait été peint en 1930 et qu'on a pu voir donc pour la première fois en France, hein, qui avait traversé l'Atlantique pour l'occasion. C'est ce couple d'Américains au visage grave, lui avec sa fourche, elle son chignon serré, rigueur protestante. Il nous reste 30 secondes pour évoquer quand même un mot qui est très important, le souligner, la question de la démocratisation.
Oui.
Ça a été remis au goût du jour récemment par un rapport et un appui insistant de la ministre de la Culture actuelle.
Oui.
Ça va être un de vos objectifs premiers. Vous allez faire comment?
Oui. Bah écoutez, il y a d'abord en faire une priorité. La première des questions, c'est d'en faire une priorité transversale au sein de l'établissement public. Je suis extrêmement attaché à la notion de service public, à la notion de transmission et de partage de ce patrimoine.
Donc l'ouverture à la jeunesse.
Ouverture à la jeunesse. La jeunesse sera une des priorités d'Orsay et de l'Orangerie. Toute la jeunesse sera une des priorités d'Orsay et de l'Orangerie dans les années qui viennent.
En baissant les prix. Bah,
il faut à la fois travailler sur l'expérience de visite et ce que nous proposons à toutes les tranches de la jeunesse au sein même des deux établissements, et puis savoir travailler hors les murs, comme on le dit aujourd'hui, en liaison avec l'éducation nationale. Il y a encore, c'est un chantier qu'on a déjà commencé à développer, mais qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Je crois que le lien avec l'éducation nationale est absolument prioritaire.
Laurence Descaires, nouvelle présidente du musée d'Orsay, on fait le poids dans un an.
On fait un premier bilan. Volontiers.
Merci en tout cas de nous avoir accordé ce premier entretien sur France Culture. Merci beaucoup.
Merci.